Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Rosalie Suc, Margot Laurie, dont Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Huy et mise en onde ce matin par Sylvain Latu. On poursuit notre série au fil de l'Océanie après avoir évoqué les enjeux géopolitiques dans la région. Et puis les racines et les effets des catastrophes climatiques en Australie après ces gigantesques incendies des dernières semaines. Ce matin, cap sur ces territoires fantasmés qui tentent de valoriser leur patrimoine culturel et naturel. De Tonga à Bora Bora, la fabrique des îles mythiques, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Diana, tu vas aimer. Le village de Matunui, ce paradis. Tous les danseurs se préparent pour la danse des anciens.
Et pour pas changer si celle-ci nous suffit.
Bora Bora, Tahiti, le plus bel endroit du monde avec des récifs merveilleux. J'avais besoin de le vérifier par moi-même.
Les gens sont super, les paysages sont magnifiques, on ne peut pas se tromper.
Regardez la vue, c'est relaxant, c'est le paradis parfait, il n'y a pas de bus.
Les opérateurs internationaux nous regardent et la stabilité donne confiance. Nous sommes au milieu du Pacifique, loin des conflits, loin des grands phénomènes météorologiques. Et puis, il y a un vrai engouement pour la destination.
Les plages de sable fin, l'eau turquoise, les lagons et leur faune exceptionnelle, les colliers de fleurs, l'Océanie et ses îles paradisiaques font rêver les touristes du monde entier. Outre les paysages de rêve, les pratiques culturelles sont aussi fortement ancrées dans notre imaginaire collectif occidental à travers la musique, la danse, depuis le fameux haka des rugbyman néo-zélandais jusqu'au dessin animé Vaiana dont on entendait un extrait et dont l'intrigue est inspirée des figures de la mythologie polynésienne. En passant aussi peut-être par les superbes toiles de Paul Gauguin qui avait succombé à la fin de sa vie aux sirènes de la Polynésie, où il finira ses jours espérant fuir l'artificiel de la vie occidentale. Ces représentations nous laissent entrevoir des peuples autochtones qui, malgré la mondialisation, parviendraient à perpétuer leurs coutumes, à affirmer leur identité, à valoriser patrimoine culturel et naturel, tout en satisfaisant la curiosité des touristes. Mais qu'en est-il réellement? La mise en tourisme de ces territoires est-elle vraiment une opération gagnant-gagnant? Le tourisme altère-t-il ce patrimoine ou au contraire peut-il contribuer à sa sauvegarde, à l'amélioration de la vie des populations locales, à ce qu'il produit une forme d'homogénéisation des cultures et des identités océaniennes? Et puis comment ces pays adaptent leurs pratiques et leurs territoires à cette activité touristique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux spécialistes de la région. D'abord Aurélie Condevaux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse de l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme. Vous êtes auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Performance polynésienne, adaptation locale d'une formule culturelle touristique globale en Nouvelle-Zélande et à Tonga ». On verra ce qu'il y a derrière cette formule culturelle touristique. Avec nous également, mais en duplex de La Rochelle, Caroline Blondie, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, maître de conférence en géographie à La Rochelle Université. Et puis, vous êtes co-auteur de Tourisme et périphérie, la centralité des lieux en question. Et vous avez également participé à un ouvrage que j'ai déjà évoqué cette semaine, l'Océanie convoitée, et en particulier à un chapitre sur Bora Bora et l'activité touristique. Et on aura l'occasion d'en parler. D'abord, peut-être un mot sur le fantasme de ces magnifiques îles polynésiennes, parce que ce qui attire évidemment cette région, dans cette région, c'est bien sûr la beauté des paysages, mais il y a peut-être aussi un autre élément qui joue, à savoir cette idée que l'on se fait, Aurélie Condevaux, de ces espaces supposément ou réellement isolés, et peut-être à l'abri du changement, pense-t-on, jusqu'où justement cette puissance touristique de l'Océanie, elle réside dans ce fantasme d'un tourisme authentique, puisqu'il nous baigne, pense-t-on une fois encore, dans un monde préservé?
Alors effectivement, les imaginaires anciens sur l'Océanie continuent d'avoir un poids important dans le choix de la destination, sans doute pour beaucoup de touristes. Et ces imaginaires, ils remontent au premier contact avec les navigateurs européens, que ce soit les Espagnols au XVIe, les Européens, les Britanniques, les Français au XVIIIe, qui décrivent notamment la Polynésie française comme un paradis sur terre. Et on retrouve l'image de la féminité polynésienne, notamment dans l'imagerie touristique actuelle. Ensuite, vous soulignez la question...
On l'avait aussi chez Gauguin, j'évoquais Gauguin
tout à l'heure. Tout à fait, qui l'a complètement entretenu, ainsi que les écrivains, Stevenson, Melville, etc., qui sont tous passés en Polynésie française. Et il y a l'autre aspect de l'imaginaire aussi que vous mentionnez, qui est cette idée de territoire isolé. Alors effectivement, ça joue sans doute un pouvoir attractif fort, même si ça concerne une minorité, je pense, de touristes. Mais on a un tourisme de niche qui est focalisé sur l'idée que on a des territoires préservés de la pollution, de l'influence occidentale, notamment en Océanie.
Caroline Blondy, je voudrais vous entendre sur cette question de l'isolement. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que finalement nous allons là-bas? Parce que c'est beau, bien sûr, mais aussi parce que c'est isolé, c'est à l'abri du changement. Et puis on regardera aussi ce qu'on en pense sur place. Est-ce que on revendique cet isolement ou est-ce qu'au contraire, on affirme plutôt une appartenance au monde, Caroline Blondy?
Je pense qu'en fait, les professionnels du tourisme ont particulièrement joué justement sur cette insularité et ont même généré une mise en abîme de cette insularité, parce qu'en fait, les touristes qui viennent en Polynésie française, et notamment quand ils vont à Bora Bora, il y a une surinsularité, c'est-à-dire qu'on va dans ces îles au bout du monde, on reprend l'avion depuis Tahiti pour aller à Bora Bora. Une fois qu'on arrive à Bora Bora, on prend un bateau pour aller sur un motu périphérique, pour arriver dans un hôtel, cet hôtel qui est lui-même construit souvent avec une architecture mi-aquatique, mi-terrestre, dans des bungalows sur pilotis qui, là aussi, sont presque, là encore, une nouvelle figure de l'insularité. Donc, il y a véritablement, effectivement, l'insularité est mise en scène très fortement aussi par les professionnels du tourisme dans cet imaginaire touristique très fort.
Mais si on met de côté, justement, les acteurs du tourisme, dans les sociétés polynésiennes, est-ce que on revendique cet isolement ou est-ce que au contraire on essaye de le mettre un peu de côté pour affirmer une appartenance au monde et à la mondialisation?
Je pense que c'est plus compliqué que ça. Enfin, je pense la réponse est complexe. Il y a à la fois la revendication de l'appartenance au Fénois, c'est-à-dire le Fénois, c'est la terre, qui est très forte. Il y a une identité. On n'est pas polynésien. On est avant tout d'une terre familiale, d'une île, d'un archipel. Donc cette dimension d'ancrage dans un espace insulaire, il est très fort. Là, ça fait référence aussi aux travaux de Joël Bonnaison sur la métaphore de l'arbre de la pirogue qui est très forte dans ces sociétés océaniennes. Mais après, on est aussi dans une société qui est complètement intégrée, bien évidemment, au système monde, qui a la parabole à la maison, qui a Internet, etc. Donc il y a à la fois effectivement cet ancrage dans une insularité, dans une tradition qu'on revendique, mais aussi bien évidemment une modernité qui est très forte.
Ben, c'est entre les deux qu'on va naviguer aujourd'hui. Aurélie Condevaux, vous vous êtes intéressée aux performances culturelles, on va voir ce qu'on entend par là, qui sont proposées aux touristes, et vous avez en particulier comparé deux pays polynésiens, à savoir la Nouvelle-Zélande et le Tonga. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux pays? Pourquoi est-ce que cette comparaison était particulièrement pertinente?
Alors, c'est un cheminement qui vient d'une découverte, on va dire, successive des deux pays. Mais une des raisons, c'est que, en fait, dans ces deux archipels, comme dans d'autres dans le Pacifique, on retrouve effectivement cette même formule de présentation des cultures locales qui repose sur la découverte d'un repas cuit au four traditionnel qu'on appelle le umu à Tonga, donc un four des repas cuits dans un four semi-enterré, et une présentation de musique et de danse soit locales, soit qui viennent de l'ensemble de la Polynésie. Donc il y a un aspect vraiment très standardisé dans la présentation qui tranche avec le contraste à la fois historique et politique entre les deux pays, qui ont des histoires et des systèmes politiques extrêmement différents. Donc l'idée était de comprendre comment on peut expliquer donc l'appropriation de cette formule dans des contextes aussi différents, en se posant cette question du poids de la globalisation aujourd'hui dans la mise en tourisme.
Donc ça veut dire que si on regarde un peu cette diversité, parce qu'elle est extrêmement grande, le fait de recevoir des touristes et de leur proposer des shows chantés, dansés, il y a une forme de standardisation dans l'identité culturelle de ces populations.
Alors,
en tout cas, dans la manière dont ils l'affichent aux touristes.
Dans la manière dont on l'affirme, okay. Dont on l'affiche, effectivement. C'est pas dans l'identité culturelle elle-même, puisque ce qui est revendiqué à travers ces spectacles, ce sont des identités culturelles spécifiques. Mais dans la manière dont c'est fait, effectivement, cette formule, on la retrouve également à Hawaï. Notamment, elle provient du fameux Polynesian Cultural Center, qui est un lieu de mise en culture de la tourisme, du tourisme dans le Pacifique, qui est très, très connu.
Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous présenter, Aurélie Condevaux, en quelques mots, ce que sont justement ces performances. Vous racontez dans votre premier chapitre le déroulé d'une performance culturelle dans un hôtel tonguien. C'est ce qu'on appelle donc un floor show. Vous nous expliquez à quoi ressemble cette performance culturelle touristique qui est assez typique visiblement et qu'on retrouve un peu partout. Même s'il y a des nuances, mais ouais. Globalement.
Alors effectivement, on la retrouve partout. On va retrouver parfois les mêmes styles de danse. On va retrouver parfois les mêmes techniques de mise en scène, les mêmes présentations, les mêmes plaisanteries aussi qui sont utilisées par les personnes qui les font. Concrètement, alors ça, il y a des variations aussi en fonction des contextes, mais on va retrouver une séquence d'une demi-heure à une heure de présentation de différentes danses. En Nouvelle-Zélande, bien sûr, ce sont essentiellement les kapa haka, donc dont fait partie le haka maori que l'on connaît. C'est le haka joué au début des matchs de rugby, enfin un des haka, le kamate. Donc ensuite, les touristes sont invités à manger ce repas au cours de la soirée.
Avec notamment du porc à la broche.
Alors à Tonga, oui,
c'est un incontournable.
C'est un incontournable.
Rassurez-moi, c'est un incontournable. Il y a un maître ou une maîtresse de cérémonie à chaque fois.
Oui, donc il y a des personnes qui sont à charge d'animer la soirée, de présenter aussi les danses, de présenter les éléments de culture locale qui sont présentés, notamment d'expliquer le déroulé du repas, voire de faire une prière au début de la soirée dans certains contextes.
Alors justement, voire faire une prière, dans quel contexte est-ce qu'il y a cette dimension-là? Spirituelle, voire même carrément religieuse.
Alors, en l'occurrence, c'est très présent à Tonga, puisque la spécificité du tourisme à Tonga, donc Tonga est un archipel qui se trouve à 2000 km à peu près au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Il revendique de n'avoir jamais été colonisé, ça a été sous protectorat britannique pendant quelques années. Et c'est une société très diasporique, donc on rejoint un peu ce que disait Caroline sur le fait que, au-delà de l'idée d'un isolement, ce sont des sociétés en réalité qui sont extrêmement interconnectées. Il y a plus de Tongiens qui vivent en dehors de Tonga que à Tonga. Et donc, une des spécificités du tourisme dans ce contexte, c'est que une grande partie du tourisme, en fait, est alimentée par les Tongiens de la diaspora qui reviennent dans leur pays d'origine passer des vacances, voir la famille pour certaines occasions. Et donc, eux vont se rendre aussi à ces spectacles. Et la religion étant extrêmement importante à Tonga, c'est assez naturellement qu'on va commencer par une prière chrétienne.
Et alors là, les spectacles sont un peu différents que par rapport à ce qu'on montre aux touristes.
Non, ce sont les mêmes. Touristes, on va dire non tongiens et tongiens se mêlent au cours des soirées, au cours des mêmes spectacles.
Caroline Blondy, Aurélie Condevaux nous parlait d'une forme d'homogénéisation dans les performances dansées et chantées dans cette région-là. Si on regarde la question plus large de la mise en tourisme des territoires polynésiens, est-ce que là aussi, vous diriez, il y a une forme de standardisation à mesure que se développait ce tourisme international, où il y a quand même des spécificités en fonction des atouts des uns et des autres, et finalement on a quand même préservé un certain nombre de différences.
Alors, je crois qu'il faut en fait distinguer plusieurs choses. Cette mise en tourisme, déjà de la Polynésie, elle est très inégale, puisqu'en fait, sur les 118 îles de la Polynésie, seul un petit nombre, hein, une vingtaine, sont touristiques. On en a une dizaine qui sont dotées d'hôtels, où ces hôtels, effectivement, on observe une certaine homogénéisation dans l'architecture, même si souvent, il y a quand même un gros souci d'originalité dans les hôtels, même si on retrouve donc des logiques similaires, donc ces silhouettes, hein, mi-aquatiques, mi-terrestres, dont je vous parlais tout à l'heure, cette symbiose qui est faite avec le lagon, parce que le lagon est quand même un des éléments, des symboles, oui, très forts que les touristes recherchent. Malgré cela, on a aussi d'autres formes d'hébergement, notamment l'hébergement chez l'habitant, où là on a une plus grande diversité des formes qui fait que cette standardisation elle n'est pas systématique et que on peut trouver d'autres. Enfin, la mise en tourisme a aussi permis de préserver d'autres formes qui sont moins normées que l'hôtellerie internationale. Par ailleurs, dans les pratiques aussi, il y a une très grande diversité dans certains hébergements chez l'habitant. Finalement, ça n'est que de nom. C'est des pensions de famille où finalement vous croisez très peu les familles au cours de votre séjour et au contraire, des familles qui vont vraiment vous accueillir, vous amener à la pêche, vous amener dans des activités familiales. Donc là aussi, la réponse est complexe. Les situations sont très différentes d'une île à une autre. Les îles plus touristiques seront peut-être effectivement plus formatées, mais c'est pas systématique. Le cas, et des îles où au contraire le tourisme est moins développé, où effectivement l'hébergement chez l'habitant va être plus présent. Il y a une découverte peut-être effectivement de cette vie locale qui est peut-être plus forte.
Aurélie Condevaux, si on prend le cas par exemple de Tonga, que vous connaissez bien, est-ce qu'il y a une volonté des autorités publiques à promouvoir ce genre de spectacle? J'imagine que oui. Et puis plus généralement, à quoi ressemble la politique de mise en tourisme, de patrimonialisation de Tonga? Est-ce qu'il y a une volonté réelle de développer avec une certaine philosophie ou d'une certaine manière on laisse faire un peu les acteurs du tourisme et advienne ce qu'advient?
Alors, effectivement, très majoritairement, en fait, ces spectacles-là sont faits par des privés, dans des hôtels privés. Ils ne bénéficient pas de soutien financier de la part du gouvernement. Le gouvernement, en revanche, finance une institution qui s'appelle le Tongan Cultural Center, et qui donne à voir aussi ce même type de spectacle et qui a un petit musée également à côté. Donc, il y a effectivement une stratégie touristique qui est pensé de manière explicite par le gouvernement tongien, mais finalement, il y a peu de moyens financiers quand même qui sont mis à ce développement-là localement. Il y a aussi beaucoup d'investissements chinois, hein, vous évoquiez la question lundi, notamment d'investissements dans les hôtels, dans l'aviation, donc voilà, un manque de financement public qui est pallié par d'autres biais.
On y viendra notamment quand on parlera de Bora Bora avec vous, Caroline Blondy. Mais si on reste sur cette question des politiques publiques et qu'on regarde un peu du côté, enfin, à une échelle peut-être plus globale, Caroline Blondy, je crois qu'il y a une stratégie régionale en matière de culture et de patrimoine, avec un plan qui est baptisé Regional Culture Strategy, qui est un plan 2010-2020. Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quelle est là, une fois encore, la philosophie générale qu'on retrouve derrière?
Là aussi, ça dépend de la manière dont on s'en empare. Les situations sont différentes et comme le disait Aurélie, aujourd'hui, ce qui se dessine surtout dans beaucoup de territoires, c'est effectivement l'arrivée d'investisseurs étrangers, chinois notamment. On a effectivement on observe, hein, depuis maintenant quelques années, l'arrivée de groupes qui sont soit des groupes qui détiennent des chaînes internationales d'hôtellerie, mais aussi beaucoup des compagnies aériennes qui s'implantent, qui achètent des touchés, hein, ce qu'on appelle des touchés aériens. Alors parfois, ça se traduit par la mise en place de vols charter ou la mise en place de lignes régulières, mais parfois, ça ne se met pas directement et tout de suite en place. C'est le cas notamment en Polynésie, où Hainan Airlines a acheté c'est touché aérien et met en place hein, des vols charters de temps en temps. Mais ça va dépendre en fait des territoires. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, on observe en Océanie aussi, désormais aussi, des initiatives locales. C'est-à-dire qu'on a aussi des groupes privés locaux qui peuvent là aussi commencer à se positionner dans les politiques de développement touristique. C'est notamment le cas du groupe Grey, ce groupe samoan. C'est le cas également aussi, on a la même chose en Polynésie avec une société polynésienne qui a d'ailleurs essaimé un certain nombre d'hôtels en Polynésie. Donc on voit que selon les territoires, ces stratégies, elles sont différentes selon aussi le niveau de développement. Est-ce qu'on est dans un espace qui a été colonisé ou pas? Est-ce qu'il y a une métropole derrière qui aide ou pas? Ou une ancienne colonie qui continue à aider? Enfin, les situations
sont
très différentes.
Et alors, en l'occurrence, si on regarde par exemple les Samoa, vous dites qu'il y a par exemple là un groupe qui est fortement qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique son succès?
Alors bon, moi je suis pas une spécialiste des Samoa, hein, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a il y a plusieurs explications. Il y a aussi le phénomène de défiscalisation qui a pu jouer dans un certain nombre de territoires où effectivement les politiques publiques mettent en place ces systèmes de défiscalisation et donc attirent des investissements. D'ailleurs des investissements qui sont plus ou moins avouables parfois. Il y a aussi le phénomène paradis fiscaux qui sont présents. Là aussi, ça va dépendre des territoires. En l'occurrence, le groupe samoan, ce groupe samoan après a également aussi, s'appuie sur des réseaux là aussi, hein, des réseaux familiaux et comme l'expliquait Aurélie tout à l'heure. Le rôle aussi des migrations, des appuis que peuvent avoir ces différentes populations océaniennes dans différents pays ont pu jouer aussi et favoriser le développement de partenariats aussi entre ces différents pays océaniens.
C'est le genre d'ambiance que vous connaissez bien, Aurélie Condeau. Vous avez probablement eu l'habitude de les entendre. Mais là, il y a une spécificité, c'est qu'on n'est absolument pas dans un hôtel. On est dans un festival sur les îles Tonga en 2016. On est dans une compétition avec effectivement ces performances, danser, chanter, avec des groupes qui passent les uns à la suite des autres pour proposer leur propre show. On est dans une salle, on est en intérieur, on a des juges qui vont donner des notes. Donc c'est intéressant parce que ce type de performance, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas seulement pour les touristes, c'est aussi parfois pour des fêtes, des anniversaires, etc. Mais il y a aussi un caractère sportif dans tout ça.
Alors, c'est de la compétition. Ouais. Il y a le modèle de la compétition de danse est extrêmement fort, encore plus en Nouvelle-Zélande qu'à Tonga. Mais effectivement, là, le son qu'on entendait a été pris, je pense, pendant un festival qui s'appelle le festival Heilala, qui a lieu chaque année.
On ne peut rien vous cacher, voilà. Exactement.
Et qui, il n'y a pas non plus des milliers de festivals à Tonga, il faut dire. Mais donc, c'est le festival annuel pendant lequel donc des concurrentes vont concourir pour le titre de Miss Heilala et donc présenter des danses traditionnelles pour ça.
C'est pas que des filles, hein, il y a aussi des garçons.
Alors voilà, alors les concurrentes sont uniquement des filles, mais effectivement, il y a aussi des danses de groupe qui impliquent des garçons. Mais effectivement, le modèle de la compétition s'est imposé et il est extrêmement fort en Nouvelle-Zélande, comme je disais, où il y a aussi une grande compétition nationale de kapa haka qui génère les passions, dans lequel les groupes s'investissent, donnent un temps incroyable à l'entraînement, etc. Et qui se base effectivement un peu sur le modèle sportif de quelque part.
Ouais. Et il y a aussi des compétitions scolaires. Alors, est-ce que ça veut dire que précisément la passion est immense et donc il faut répondre à tout cela et proposer à ces jeunes des compétitions? Ou est-ce qu'il faut voir les choses différemment et se dire que peut-être que précisément ils s'y désintéressent un peu et que pour préserver la chose, on organise tout ça et on organise cette préservation par le truchement de l'école.
Alors ça dépend un peu des contextes. En Nouvelle-Zélande notamment, je pense que l'engouement est tel que effectivement les jeunes sont encore très investis dans ces formes de pratiques, on va dire, parfois qualifiées de traditionnelles. À Tonga, les compétitions scolaires, elles ont été lancées beaucoup plus récemment et elles découlaient notamment d'une volonté de sauvegarde consciente, en particulier d'une danse qui s'appelle le Lakalaka, qui a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2008, après avoir été reconnu comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel. Et là, effectivement, c'était pensé comme pouvant pallier le désintérêt des jeunes pour ces pratiques. Et on a sans doute moins un engouement aussi marqué, ou alors pas pour les mêmes raisons, on va dire. C'est peut-être pas la sauvegarde patrimoniale qui va le plus parler aux jeunes, mais plutôt la compétition justement entre écoles qui, là, par contre, fait écho à des tensions entre les différents établissements scolaires.
Pourquoi le Lakalaka a fait l'objet d'un tel honneur? Pourquoi s'est-il retrouvé comme ça sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité? C'est pas le cas de toutes les danses.
Voilà, oui, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que déjà à l'échelle du Pacifique, il y a peu de pratiques qui sont inscrites sur cette liste. En fait, il y a très récemment le Iye Samoa, donc les nattes fines de Samoa, qui ont été inscrites. Il y a aussi les dessins de sable du Vanuatu, et le Lakalaka était une des premières donc à être inscrite. Et c'est une danse parmi les 10 environ qui existe à Tonga et qui aurait pu sans doute prétendre aussi à une inscription. Donc là, l'inscription, elle est à expliquer notamment pour des raisons politiques, puisque donc Tonga est une monarchie où, à la tête duquel le roi a encore un pouvoir important, et le Lakalaka est vraiment la danse qui est la plus étroitement liée à cette dynastie de rois qui règne actuellement. C'est une danse qui permet de rendre hommage au roi, aux lignées de rois, aux nobles également, et ça a été fait, ce processus patrimonial. Il a été conduit notamment par un proche parent du roi et appuyé par le roi lui-même.
Donc il y a aussi une dimension politique, le roi étant Tupoussis.
C'est ça.
Arrivé sur le trône en 2012 après la mort de son frère Georges Tupou V. On va prendre la direction de Bora Bora, la perle du Pacifique, peut-être l'une des îles les plus visitées de la Polynésie, mais qui a aussi un lien très fort avec les États-Unis. Archive 1977, Archivina.
En 1942, la force armée des Américains est arrivée ici. Et depuis ce temps-là, vous savez très bien, il y a des gens qui sont travaillés avec les Américains, avec les militaires et ainsi de suite. Et depuis ce temps-là, on peut le dire, la vie qui a été un peu orientée vers la vie des étrangers, par exemple. Et il y en a même des gens qui sont travaillés avec les Américains, qui ont appris la langue anglaise. Et puis, c'est là, a évolué un petit peu la vie habituelle de la population.
Voilà, Archivina de 1977. On va s'intéresser au tourisme du côté de Bora Bora. C'est le sujet de l'article que vous avez écrit pour cet ouvrage, L'Océanie convoitée, histoire géopolitique et société, Caroline Blondy. C'est évidemment un archipel qui a bénéficié à plein de ce mythe de l'espace insulaire paradisiaque polynésien qu'on évoquait au début d'émission. Mais il faut dire aussi peut-être que précisément ces liens qui ont été tissés avec les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était une base arrière de la marine américaine après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Et il semble que cette histoire particulière avec les États-Unis explique peut-être en partie, en tout cas, la trajectoire de l'archipel et sa place assez centrale dans le tourisme polynésien. En quoi précisément, Caroline Blondy ?
Bien, effectivement, cette présence américaine pendant la Seconde Guerre mondiale a mis en désir, entre guillemets, je pense, cette île pour les Américains. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'anciens boys ont sans doute voulu retrouver ces lieux où, effectivement, ils avaient pu rester un certain nombre de semaines. Et effectivement, il y a une véritable... une histoire un peu particulière entre Bora Bora et les États-Unis. D'ailleurs, on s'aperçoit que les touristes américains, hein, quand ils viennent en Polynésie française, la plupart du temps ne font que transiter à Tahiti et vont directement sur Bora Bora, vont éventuellement sur Moorea aussi, hein, qui est l'île sœur de Tahiti. Mais il y a vraiment une prédilection pour cette île qui est présente.
C'est quasiment la moitié des touristes, j'ai regardé les chiffres. Je ne sais plus si c'est dans un article à vous ou un autre, mais c'est quasiment la moitié des touristes à Bora Bora.
Alors, à Bora Bora, effectivement, il y a une très forte présence américaine. Ça s'explique également aussi par la présence des chaînes qui sont à Bora Bora. Bora Bora, c'est un peu la vitrine touristique de la Polynésie dans la mesure où elle concentre les hôtels les plus prestigieux, les hôtels 5 étoiles, et notamment des grandes enseignes comme Four Seasons, comme Saint-Régis, qui ont une reconnaissance à l'échelle internationale. Or, il est vrai que la clientèle américaine est quand même très souvent recherche ce type aussi d'enseigne. Donc ceci explique cela aussi. Hein.
Alors, il y a les États-Unis, mais visiblement de plus en plus, et vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, il y a la Chine qui a des velléités particulières sur Bora Bora. Comment elle s'illustre justement ces ambitions chinoises?
Alors, ces ambitions chinoises, elles s'illustrent de plusieurs manières, mais par rapport justement au moment où j'ai écrit l'article dans cet ouvrage...
C'était en 2017.
Voilà, c'était en 2017, c'était il n'y a pas longtemps, mais les choses évoluent souvent très vite en Polynésie. Et justement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un décollage du nombre de touristes chinois. Or, ce décollage ne s'avère pas être réel. On a même, là, dans les derniers chiffres, plutôt un tout petit, un léger recul. On est à peine 5 000 et quelques touristes par an. Néanmoins, ça n'empêche que des pions sont posés. Des pions sont posés avec, effectivement, l'achat d'hôtels. C'est une des premières manifestations. L'achat, donc, c'est ce que je vous disais aussi, de ces touchés aériens. Donc, on voit quand même se positionner les choses. Il y a eu aussi toute une...
Depuis quand, est-ce qu'on se positionne du côté de Pékin sur cette zone ?
En fait, on observe ça depuis les années 2000. On voit des tractations. Déjà, à l'époque de Gaston Flosse, il y avait eu déjà des échanges entre la Chine et la Polynésie. C'est une politique qui est déjà... Je dévoile un secret de Polichinelle en disant que la Chine est quand même aujourd'hui un des marchés qui est les plus convoités par toutes les destinations touristiques, de par le nombre de touristes en puissance que la Chine pourrait fournir aux destinations touristiques.
Et comment on attire les investisseurs chinois ?
Alors, on les attire de plusieurs manières, je pense. Déjà, en ayant une destination qui va offrir des prestations qui sont dans les standards chinois.
Bien
donc, ça, c'est une première chose. C'est du coup aussi en ayant aussi des facilités en termes, je dirais, diplomatiques aussi pour toutes les formalités administratives. Et puis, c'est également aussi en ayant sur place aussi de plus en plus, les hôtels recrutent du personnel qui parle la langue. Donc on a toute une palette effectivement de dispositifs pour favoriser l'attractivité pour les destinations.
Vous me parlez pas de régime de défiscalisation? Pourtant, vous en parlez dans votre article.
Bien sûr. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, cette défiscalisation, c'est effectivement une des politiques qui a été mise en œuvre par la Polynésie française pour justement combler cet isolement ou cet éloignement qui peut être un handicap également au développement touristique. Quand il faut plus de 10 heures d'avion, c'est à la fois un coût en temps, en argent, qui est compliqué à surmonter. C'est un coût de la vie aussi sur place qui est très élevé, qui fait qu'on a des prestations touristiques qui sont assez onéreuses. Et effectivement, une des solutions qui a été préconisée dès les années 80, et pas seulement en Polynésie, mais dans tout l'outre-mer français, ça a été le principe de la défiscalisation qui a permis à la fois de doper l'investissement étranger et de capter l'investissement étranger pour construire des hôtels, mais pas seulement, pour également aussi développer des activités touristiques. Néanmoins, cette politique aujourd'hui de défiscalisation, elle peut interroger, on peut s'interroger sur son efficience, dans la mesure où on voit quand même que dans cet outre-mer français, et en particulier donc cet outre-mer français océanien, les résultats du tourisme, même si pour la Polynésie depuis deux ans, on voit un progrès, ils sont en deçà de ce qu'on pourrait imaginer.
Surtout que, visiblement, on en a peut-être trop fait, Caroline Blondy, puisque vous expliquez que les infrastructures se sont beaucoup développées jusque dans les années 2010 et qu'elles ont depuis amorcé un recul. On trouve même aujourd'hui des anciens sites hôteliers qui sont totalement en friche, on va y revenir. Mmh. Mais comment le comprendre? Justement, on en a trop fait, on est arrivé à un seuil maximal, on a, je ne sais pas, c'est peut-être aussi le fruit d'une concurrence nouvelle dans la région. Enfin, comment l'expliquer?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. Là, ici, Philippe Bachimon a publié récemment un article qui effectivement a fait un point sur toutes ces friches touristiques qui ont été qui sont présentes en Polynésie française. Ces friches touristiques, elles peuvent s'expliquer de plusieurs manières. En fait, c'est que cette politique de défiscalisation, très souvent, elle une fois donc les 10 ans ou la période obligatoire donc d'exploitation de l'hôtel, il y a un mauvais accompagnement de l'après, si vous voulez, période de défiscalisation, qui fait qu'en fait, les investisseurs, une fois que finalement l'opération a été faite, il n'y a plus forcément un intérêt à ce que l'hôtel derrière, bah, il fonctionne, etc. Donc il y a ce premier problème. Par ailleurs, c'est vrai que la défiscalisation, elle a surtout porté dans un premier temps sur la construction, et il a fallu ensuite mettre en place des opérations pour que ce soit aussi sur la rénovation, puisqu'en fait on est dans des milieux tropicaux où les hôtels vieillissent très vite, sont soumis à des contraintes climatiques qui sont importantes, et cette hôtellerie qui est aussi une hôtellerie de luxe, elle a besoin de se maintenir à un certain niveau. Donc il y a aussi sans doute une politique d'accompagnement d'après la période de défiscalisation qui a fait défaut.
Qui a fait défaut. Il y a aussi des problèmes de corruption. Il y en a eu.
Alors, il peut y avoir des problèmes.
C'est vous qui le dites, hein.
Il peut y avoir de ces problèmes-là, mais je pense que c'est surtout.
C'est pas l'essentiel.
C'est pas l'essentiel. Ouais. Je pense que il y a ce premier problème. Après, il y a un autre problème qui peut se poser en Polynésie, c'est aussi le problème de l'indivision. Alors, je sais pas si c'est un problème ou pas d'ailleurs. Ça dépend du point de vue selon lequel on se place. Mais cette question de l'indivision aussi a pu être un frein au développement touristique en Polynésie. Dans la mesure où, effectivement, pour investir sur ces terres polynésiennes, la question de la propriété est centrale. Mais c'est aussi, à la limite, parfois, à la fois un frein au développement touristique, mais c'est aussi ce qui a pu permettre à certaines îles de conserver, justement, leur environnement, leur patrimoine naturel aussi.
Que deviennent,
et leur spécificité.
Que deviennent ces friches, Caroline Blondy? Elles sont réinvesties par la population?
Alors, là aussi, les choses peuvent être très, très différentes. Certaines friches sont toujours en friche, ce qui pose d'ailleurs des problèmes sanitaires parfois au niveau des piscines où les moustiques se multiplient, etc. Donc, certaines friches ne sont pas du tout utilisées, quand d'autres, au contraire, peuvent être réinvesties par la population. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On observe ça à Bora, on observe ça également aussi à Moréa, où parfois les populations qui donc les héritiers qui sont sur ces terres en indivis, eh bien vont se réapproprier ces espaces et peuvent même parfois utiliser les bungalows, les anciens bungalows de certains hôtels comme résidence secondaire ou autre. Donc il y a une réappropriation, oui, de ces espaces qui peut s'observer.
Mais qu'on comprenne bien, c'est une réappropriation informel ou on formalise un peu les choses, c'est-à-dire on rachète des bouts de terrain, enfin comment ça se passe?
Alors, il y a pas le principe d'indivision, comment ça fonctionne? En fait, sur une terre, les parents, enfin, il n'y a pas de partage de cette terre. Tout est fait de manière informelle entre guillemets. Il y a pas de partage comme on peut le faire dans notre société devant nos terres ou autre. C'est pas ça du tout. Ce qui se passe, c'est que on l'a vu dans le cadre, par exemple, notamment du Club Med sur Moréa. eh bien, les infrastructures donc ont été laissées à l'abandon et les héritiers de ces terres ont pu revenir sur ces terres et tout simplement s'installer dans les anciens farés du Club Med et donc se rapproprier. Il n'y a pas de rachat de ces terres puisque terres, elles sont familialement dans elles sont déjà elles leur appartiennent.
Caroline Bondy, encore un mot sur un point sur lequel je voudrais vous entendre et puis ensuite on accueillera Céline Travesi qui nous attend par téléphone. Il y a quelque chose qui m'a un peu étonné dans votre article, c'est que vous expliquez que les locaux ne sont pas forcément aussi enclins qu'on pourrait l'imaginer à travailler dans le secteur du tourisme.
Oui.
Comment comprendre?
Alors en fait, il faut voir que on est en Polynésie comme dans d'autres espaces ultramarins, on est là aussi pour la France pour essayer de pallier l'éloignement, la difficulté de la vie éventuellement. A mis en place ce qu'on appelle la surrémunération pour les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires nationaux, enfin de la fonction publique nationale ou des fonctionnaires territoriaux, qui fait que en Polynésie on a une rémunération qui est indexée à 1,89 à peu près, et pour les jeunes générations, effectivement, le tourisme, le secteur du salariat touristique, je dis bien du salariat touristique, n'est pas forcément très attractif. Pourquoi ? Parce que les salaires, ils sont beaucoup moins élevés que dans la fonction publique, par exemple, ou dans d'autres secteurs de l'économie qui sont monopolistiques, où on retrouve cette surrémunération. Et puis parce que, là, c'est là aussi quelque chose qui n'est absolument pas spécifique à la Polynésie, le secteur touristique, c'est un secteur qui est difficile, malgré tout, avec des horaires lourds, contraignants, où on travaille tous les jours de la semaine. Et donc, il est évident qu'il y a plutôt un engouement pour travailler dans la fonction publique ou dans les secteurs monopolistiques qu'on peut observer. Il y a eu vraiment une... Il y a vraiment, pas un désintérêt, mais un peu une... une défiance par rapport à ce secteur-là. Alors, je nuancerai quand même ce propos quand il s'agit non pas du salariat, mais de l'entrepreneuriat. Autant, effectivement, le salariat touristique est souvent un peu vécu, on travaille dans un hôtel parce que finalement, on n'a pas d'autres alternatives, voilà. Autant, par contre, devenir un entrepreneur du tourisme, c'est quelque chose de plutôt valorisant. Ouais. Et là, il y a une véritable appétence pour ce genre
c'est
de...
C'est pas pareil quand on participe activement à tout cela, Caroline Blondy. On va aller du côté de l'Australie. On va poursuivre justement sur cette question du tourisme, peut-être en particulier sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire à cette idée de devenir acteur de ce tourisme-là. Parce que si ce tourisme, il est parfois accusé de dégrader l'environnement, de mettre à mal les conditions de vie des populations autochtones, il y a pourtant des exceptions. Et on va s'intéresser à cette communauté des Bardis, on est en Australie, où l'écotourisme est en plein essor.
C'est important pour nous de conserver notre façon de pêcher, car elle est écologiquement responsable. Nous n'attrapons que ce dont nous avons besoin, ce qui nous permet d'être en harmonie avec les espèces animales autour de nous. On ne pêche pas des centaines, voire des milliers de poissons, comme parfois les gens le font avec des filets. Nous, on pêche très peu, juste de quoi survivre, en accord avec nos traditions et nos coutumes. Et ça, c'est très important.
Voilà, extrait du documentaire Les Bardis Jaoui, les sentinelles de l'océan de Ludovic Fossard qui avait été diffusé sur Arte. Bonjour Céline Travesi.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, chercheuse associée au CREDO, le Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie. Vous travaillez sur ces aborigènes bardis depuis plus de 10 ans. Vous avez passé des longs mois à vivre à leur côté. D'abord, vous allez nous les présenter peut-être en quelques mots, nous présenter cette communauté, nous dire qui ils sont, combien ils sont, où ils vivent et comment ils vivent. Et ensuite, on verra ce qu'il en est du côté de ces activités touristiques parce qu'ils reçoivent et de plus en plus des touristes. Céline Travesi.
Oui, alors, écoutez, donc les Bardis, il s'agit en fait d'un groupe aborigène d'environ 500 personnes qui vit sur la côte des Kimberley, donc qui est une région reculée du nord-ouest de l'Australie. Donc ils vivent de manière semi-permanente dans des communautés qui sont des sortes de municipalités qui ont été créées à partir des anciennes missions qui avaient été établies sur leurs terres à la fin du 19e siècle et sur des campements familiaux qui eux, ont été établis à l'extérieur de ces communautés. Donc, comme la plupart des groupes aborigènes qui vivent sur le littoral, ils se définissent comme des gens de mer. C'est-à-dire qu'en effet, l'environnement maritime et les relations qu'ils entretiennent avec lui jouent un rôle central et structurant dans la vie matérielle, sociale et économique locale. Donc, comme dans d'autres régions maritimes d'Australie, une part importante de la vie sociale des Bardis, de leurs activités et de leur savoir aussi, se trouve informée par le rythme des marées et la connaissance des mouvements de l'océan.
Alors
et,
pourquoi Céline Travesi je vous laisse finir, je vous en prie.
Non, j'allais dire qu'une part, importante de leur alimentation repose aussi encore effectivement sur le prélèvement des ressources issues de l'océan et que donc ça occupe une place très importante dans leur quotidien.
Alors depuis quand et pourquoi se sont-ils lancés dans l'écotourisme ?
Alors, ça fait donc environ une trentaine d'années, un petit peu plus. Tout a commencé dans les années 80. Où les Bardis se sont décidés à se lancer dans le tourisme pour des raisons d'abord économiques, puisqu'en fait le développement du tourisme s'insère dans un contexte qui est caractérisé par une faible participation des aborigènes à l'économie de marché, doublée d'un manque d'opportunités locales en matière d'emploi. Donc finalement, le tourisme représente une source de revenus non négligeable. Mais c'est effectivement pour d'autres raisons aussi qu'ils ont décidé de se lancer dans le tourisme, puisque le tourisme représente aussi un moyen pour les aborigènes de revendiquer de nouvelles formes d'autoreprésentation, de renverser un petit peu les stéréotypes sur à leur sujet et donc de revendiquer des identités et de porter certains discours identitaires.
Mais alors, justement, je voudrais comprendre ce point-là, Céline Travesi, parce que vous avez raison, on en a un petit peu parlé d'ailleurs cette semaine, la société australienne, il y a évidemment, elle est traversée par une forme de posture assez discriminatoire, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de ces populations autochtones qui se sentent souvent marginalisées, voire violentée, en tout cas en situation de domination et de grande fragilité. Comment tout cela prend forme lors de cette rencontre avec les touristes ? Parce qu'il s'agit de ça, hein. Les Bardis vont leur présenter différentes activités. Comment est-ce que justement, est-ce qu'on peut, pourquoi, en quoi est-ce que c'est un espace propice pour déconstruire précisément les représentations et les idées reçues ?
Alors, tout simplement parce qu'en fait, dans le cadre du tourisme, les aborigènes, en tout cas les Bardis, vont s'appuyer énormément sur leurs savoirs locaux et les savoirs donc liés à la gestion de l'environnement, et vont en fait pouvoir se poser comme des enseignants ou comme des mentors et se présenter comme les détenteurs ou les porteurs d'une connaissance qui va être valorisée. Et donc, à partir de là, ils vont pouvoir porter des revendications de savoir, qui va leur permettre de remettre en question certaines des représentations qui sont encore véhiculées à leur sujet, et puisque les aborigènes sont effectivement encore souvent dépeints dans les médias ou dans le débat politique comme une population sous-éduquée qui va nécessiter aide et assistance. Donc là, ils vont remettre en question ces représentations en se posant comme des savants quelque part, en tout cas des gens qui ont aussi des savoirs peuvent mettre en avant et donc ils vont se présenter en fait comme des individus capables et savants.
Et alors ça marche, c'est une travesie, c'est la grande question. Est-ce que effectivement simplement le temps de cette activité de pêche ou de marche dans le bush, effectivement on a un autre regard sur les aborigènes et puis quand on les quitte on reprend ses bonnes vieilles habitudes et ses bonnes vieilles idées reçues, ou est-ce que ça transforme réellement les touristes, sachant que la grande majorité sont des Australiens, 70% des gens qui font ce type d'écotourisme, ce sont des Australiens.
Tout à fait, effectivement.
Alors, ça change les comportements ou pas ?
Est-ce que ça transforme les comportements sur le long terme ? C'est un petit peu difficile à dire, hein, évidemment, il faudrait pouvoir...
Bien sûr, mais sur les personnes qui ont cette expérience ?
En tout cas, oui, c'est-à-dire que sur le moment, les gens sont effectivement se disent effectivement touchés et ils disent avoir appris des choses. Donc, il faut savoir quand même que les gens qui sont là, les touristes australiens qui sont là, sont quand même des gens qui n'arrivent pas là par hasard. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même un tout petit peu déjà sensibilisés à la cause aborigène, qui vont être animés par des sentiments un petit peu mêlés de honte, de pitié et d'admiration aussi vis-à-vis des aborigènes, et qui sont animés du désir de comprendre qui ils sont. Donc du coup, il y a quand même déjà, et c'est un petit peu un public qui est déjà un petit peu acquis à leur cause, si vous voulez. Donc c'est un petit peu difficile, c'est assez compliqué de répondre précisément, mais en tout cas, sûrement on voit effectivement des comportements qui laissent supposer que oui, effectivement, les touristes se laissent convaincre.
Céline Travesi, parlons un peu d'argent, parce que cette activité, elle rapporte. Comment est-ce que c'est géré, justement, tout cela, dans la communauté? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier, justement, pour répartir ces gains?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le tourisme est donc géré par les aborigènes eux-mêmes. Donc, on parlait la différence entre l'entrepreneuriat, et le salariat tout à l'heure. Donc là, effectivement, ce sont des entrepreneurs. Donc, ce sont soit des familles qui accueillent les touristes sur leur propre campement. Donc là, l'argent leur revient directement. Bon, là, ce sont des petites sommes parce que finalement, les touristes se rendent assez peu sur ces campements-là. Après, il existe un campement touristique beaucoup plus important qui, lui, a été créé pour accueillir les touristes uniquement. Donc les gens ne vivent pas sur place. Et là, en fait, l'entreprise est détenue et gérée par deux communautés aborigènes, donc collectivement, et là les revenus générés par le tourisme vont être ensuite reversés aux communautés pour le fonctionnement en fait quotidien. Donc pour il y a de l'argent qui va être reversé à l'école par exemple, ou bien pour l'aménagement des infrastructures ou des choses comme ça. Et une grosse partie évidemment est réinvestie dans l'entretien et le fonctionnement du site.
Caroline Blondy, en duplex de La Rochelle, peut-être une réaction sur cet écotourisme. Alors c'est particulier, hein, on est chez les Bardi australiens, mais est-ce que ça fait écho à une expérience que vous auriez eue ou à une analyse spécifique sur les zones qui sont les vôtres, Caroline Blondy?
Bah, en fait, là où ça fait écho, c'est cette volonté effectivement d'être acteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui se voit dans certaines îles, puisqu'en Polynésie on a des îles qui refusent. Hein, d'ailleurs, l'implantation d'hôtels, je pense notamment par exemple à l'île de Maupiti, où là la communauté insulaire veut être actrice en ne développant par exemple que des hébergements chez l'habitant. Donc on voit qu'il y a là aussi, on retrouve un peu cette volonté en fait hein, de maîtriser le développement touristique. On le retrouve dans un certain nombre d'îles, hein, en Polynésie aussi, ou alors même des îles qui se ferment complètement. Hein. C'est le cas de Mayao, par exemple, qui refuse la présence d'étrangers. On voit qu'effectivement, il y a des positionnements de ces sociétés locales qui peuvent être différents selon les contextes.
Maupiti étant une petite île à l'ouest de Bora Bora, à peine une centaine de kilomètres. Je connais pas, j'y suis jamais allée, mais j'ai une carte sous les yeux. Aurélie Comtevaux, peut-être une dernière réaction.
Oui, alors ce à quoi ça me fait penser, notamment ce que disait Céline Travesi, c'est le fait, bon là on est dans un contexte écotouristique, d'un tourisme voilà plutôt limité on va dire quantitativement, mais finalement en Nouvelle-Zélande, dans ces performances maoris qui peuvent attirer plusieurs centaines de touristes par soirée, hein, on arrive aussi à contrôler finalement son image, à faire passer des messages hein, sur qu'est-ce que c'est l'identité culturelle. On n'est pas forcément dans des formes de dévoiement de la culture et ça effectivement c'est important à souligner, je pense.
E mato hana hana to owe e mato nehe nehe rahi no owe te apuri mane no owe te ari iho nuwe. I vovo mai ne owe he, te hotu no to owe natura. Ia vai mano wa te papa no te here, patuhi ai no ta ua he.
Merci beaucoup à nos deux invités, Céline Travesi qui était avec nous par téléphone, nos trois invités, Caroline Blondy qui était en duplex de La Rochelle, et un grand merci à vous Aurélie Comtevaux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Au fil de l'Océanie, vous pouvez évidemment retrouver toutes les émissions de la semaine sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. C'est avec ce chanteur polynésien Aldo Raveno qu'on se quitte, Utupenu, c'est le titre de ce morceau. Là aussi on mettra la référence sur la page de Culture Monde. Merci à tous, à toutes, pardon, 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, la question que vous vous posez ce matin, c'est à quoi ressemblerait la politique étrangère des États-Unis dans l'hypothèse où Joe Biden était élu en novembre prochain?
L'ancien vice-président de Barack Obama livre les grandes lignes de son programme dans le dernier numéro de la revue Foreign Affairs qui vient de paraître. Le titre de l'article qu'il signe résume bien son programme électoral « Why America Must Lead Again ». Pour Joe Biden, en effet, la présidence de Trump s'est traduite par une fantastique érosion du leadership américain. Le principal reproche qu'adresse Biden à Trump, c'est d'avoir isolé les États-Unis de leurs alliés traditionnels. Le président actuel, écrit-il, a dénigré, affaibli et dans certains cas abandonné les alliés et partenaires des États-Unis. Et il a enhardi nos adversaires et affaibli notre capacité à faire face aux défis de sécurité nationale de la Corée du Nord à l'Iran, de la Syrie à l'Afghanistan et au Venezuela. Il a lancé des guerres commerciales mal avisées, aussi bien contre les amis que les adversaires. Fin de citation. Pire encore, selon Biden, Trump a mis en pièces des institutions nationales, internationales de régulation, mises en place avec l'active coopération de ses prédécesseurs. Du coup, la crédibilité du pays dans le monde est endommagée. Et c'est d'abord cela qu'il faudra restaurer en cas de victoire démocrate en novembre. Les États-Unis doivent, poursuit Joe Biden, redevenir un phare de la démocratie dans le monde. Si je suis élu président, promet-il, j'abolirai sur le champ les mesures administratives prises par Trump pour séparer les enfants de leurs parents à la frontière sud des États-Unis. Il propose de fixer le taux annuel de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis à 125 000 par an et à l'augmenter au fil du temps. Je sécuriserai nos frontières tout en garantissant la dignité des immigrants et en défendant les droits des demandeurs d'asile, écrit-il. Mais Biden propose surtout d'améliorer la coopération économique avec les pays d'Amérique centrale. Il fixe à 4 milliards de dollars la somme qui devrait être consacrée à cette stratégie régionale de développement. Pour renforcer la démocratie à travers le monde, écrit encore Joe Biden, les États-Unis doivent donner l'exemple en présidant l'une des administrations les plus corrompues de l'histoire américaine moderne. Trump a donné le feu vert à tous les kleptocrates de la planète, accuse-t-il. S'il est élu, il déposera au Congrès un projet de loi interdisant les contributions financières privées aux candidats à des élections fédérales. Et il s'engage à réunir aux États-Unis un sommet mondial de la démocratie, afin de définir en commun un programme de lutte contre la corruption, de défense commune contre l'autoritarisme et de progression des droits de l'homme. Y seront convoqués, dit-il, les responsables des géants du numérique et des médias sociaux. Il leur sera exigé des mesures pour lutter contre la désinformation et les incitations à la violence. Au lieu de se réfugier derrière les barrières illusoires du protectionnisme, comme l'a fait Trump, Biden entend, je cite, « équiper les Américains des compétences qui permettront à tous de concourir loyalement dans un commerce international équitable ». Je le cite, « quand les entreprises américaines jouent sur un honnête terrain de jeu, eh bien elles gagnent », et d'énumérer les domaines où son administration ferait porter les efforts. Énergie propre, informatique quantique, intelligence artificielle, 5G, train à grande vitesse, lutte contre le cancer.
Et alors Brice, envers la Chine, quelle politique préconise le candidat Joe Biden?
Elle représente pour nous un défi particulier, reconnaît-il, parce qu'elle ne respecte pas la propriété intellectuelle. Il faut donc lui opposer un front uni des alliés et des partenaires de l'Amérique, définir des règles communes, imposer la transparence et assumer le rôle de leader. Car si les Américains abandonnent leur leadership, soit une autre puissance l'assumera à leur place et elle imposera ses propres normes, soit ce sera le chaos dans un monde privé de toute régulation. Je n'hésiterai pas, pour protéger le peuple américain, à utiliser la force si c'est nécessaire, avertit Biden. Je maintiendrai l'effort de défense de manière à ce que les États-Unis demeurent la première puissance militaire du monde, mais seulement pour défendre nos intérêts vitaux et lorsque les objectifs sont clairs et atteignables. Et Joe Biden se prononce à l'occasion pour les missions à l'étranger, ne mobilisant que des forces américaines réduites en soutien à des partenaires locaux fiables. Mais les États-Unis, en particulier les Européens de l'OTAN, doivent savoir que, je cite, « l'engagement des États-Unis est sacré et non conditionnel ». C'est pourquoi, je cite encore, la Russie redoute un OTAN fort. Il faudra également revigorer l'alliance militaire avec l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis rejoindront l'accord de Paris sur le climat, ils s'engageront sur l'objectif d'une économie entièrement décarbonée en 2050 et ils rejoindraient également l'accord avec l'Iran si les dirigeants de ce pays se montrent sérieux sur leurs engagements. Car Joe Biden se dit décidé à empêcher la prolifération nucléaire et à parvenir à un accord avec la Russie sur la limitation de ce type d'armement qui doit demeurer purement cantonné à la dissuasion. Non, l'idée libérale n'est pas obsolète, comme le proclame Poutine, conclut l'ancien vice-président d'Obama, qui, rappelons-le, fait toujours la course en tête pour la course à l'investiture démocrate.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, cher Brice.